Ça y est, les résultats sont tombés et ils sont assez clairs. 84% des 167 Français et Françaises réunis au sein de la Convention citoyenne sur la fin de vie a établi que, je cite, « le cadre actuel d'accompagnement à la fin de vie ne permettait pas de répondre aux différentes situations rencontrées ». Et puis 75% de ces mêmes 167 Français et Françaises se sont prononcés, après 27 jours de débats éclairés et d'échanges argumentés, sur une législation d'une aide active à mourir. La question de l'accompagnement vers la mort va désormais se poursuivre à l'Assemblée et au Sénat pour, comme l'a annoncé le Président à l'issue de cette convention citoyenne, une nouvelle loi soit votée avant l'été prochain. Que comprendre de ce changement sociétal envisagé? Quelles actions en pratique pour le monde des soignants? Un jour ou l'autre, on sera tous en fin de vie, comme titrait le journal Libération le 2 avril dernier. Alors, on en parle dans la lorgnette. Bienvenue à tous. Et bienvenue à mes invités. Je suis accompagné pour cette émission donc, qui sera consacrée à la fin de vie et au rapport de la Convention citoyenne qui a travaillé pendant plusieurs mois sur le sujet avec le docteur Godefroy Hirsch, médecin responsable de l'unité de soins palliatifs au centre hospitalier de Blois. Bonjour.
Bonjour.
Je suis également avec Marie-Christine Pierre-Duvois, présidente de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie en Loir-et-Cher, et puis donc de Nicolas Brusca-Pasquet. Je prononce bien.
Brusa-Pasquet, pardon,
j'ai mal écrit. Infirmier donc au sein de l'équipe d'appui départementale de soins palliatifs du Loir-et-Cher. Alors on va refaire un tour maintenant que j'ai introduit tous mes invités, de savoir quelles sont vos fonctions au sein des unités que je viens de décrire. On va commencer par Monsieur Hirsch.
Alors moi je suis le médecin responsable de l'unité de soins palliatifs du Loir-et-Cher, qui est situé donc au centre hospitalier de Blois. Et je suis par ailleurs le chef de service de l'ensemble des équipes de soins palliatifs rattachées à ce centre. L'unité de soins palliatifs, c'est un service de 12 lits, c'est un petit service qui accueille les patients atteints d'une maladie grave, pas obligatoirement en fin de vie, mais qui sont dans des situations complexes et qui ont besoin donc d'un ensemble de soins et d'accompagnement par un nombre important de professionnels dans une dimension pluridisciplinaire pour les aider à passer un cap difficile ou à être accompagnés dans la fin de vie. Les patients pouvant venir du domicile, d'autres services hospitaliers, des EHPAD, du département ou même des départements limitrophes.
Très bien. Je vais poursuivre avec le corps médical, avec Nicolas, donc, qui est infirmier.
Oui, infirmier à l'équipe d'appui donc départementale de soins palliatifs du Loir-et-Cher. Donc, c'est une équipe mobile de soins palliatifs qui se déplace dans tout le département, qui vient en appui, en conseil des professionnels qui sont déjà en place. On est ce qu'on appelle une équipe de seconde ligne. On ne vient pas se substituer aux professionnels qui sont déjà auprès du patient. On vient plutôt en conseil auprès de patients qui relèvent de soins palliatifs dans des situations plutôt complexes. On peut être sollicité par tout le monde. Le patient peut nous appeler directement, le médecin traitant, les infirmières libérales, la famille du patient. On intervient donc plutôt sur les lieux de vie, donc à domicile, en EHPAD, au sein des établissements aussi de santé du département qui n'ont pas d'équipe mobile de soins palliatifs. Donc on n'intervient pas à l'hôpital de Blois ni à l'hôpital de Vendôme, et ils ont leur équipe mobile intra-hospitalière. Et on intervient aussi dans les établissements médico-sociaux.
Très bien. Combien d'infirmiers et de médecins dans votre équipe ?
Alors, l'équipe, elle est composée de deux médecins, un interne de médecine générale. On accueille toute l'année des internes. Mmh. On est trois infirmiers, une psychologue et une secrétaire.
Et au sein, docteur Hirsch, de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital ?
10 infirmières, 10 aides-soignantes, une secrétaire, une cadre de santé, 4 médecins, un psychologue, une psychomotricienne, et puis aussi, tout nouveau, un chat, et très bientôt, un chien.
Très bien, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis, donc, je termine avec Marie-Christine Pierre-Duvois, donc, de l'association Jusqu'à la vie, accompagner la mort, c'est ça ? Non, jusqu'à la mort, accompagner la vie, pardon. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez décrire votre action et puis le nombre de bénévoles et de gens qui structurent l'association ?
Alors, association entièrement assumée par des bénévoles, hein, il n'y a pas de salariés.
Très bien.
Nous avons une vingtaine de bénévoles. Cette association existe depuis 1998, à Blois du moins. Hein. Elle a été créée en 1983 à Grenoble. Nous sommes affiliés à une fédération et à l'ASFAP, hein, la Société française d'accompagnement en soins palliatifs. Nous avons à peu près une vingtaine de bénévoles sur tout le Loir-et-Cher. Et nous formons ces bénévoles pendant une année avant qu'ils accompagnent. Et nous sommes implantés à peu près partout. La dernière convention est à Romorantin et c'est assez nouveau et on est assez contents.
Donc vous avez des bénévoles, en tout cas vous couvrez les trois établissements de santé du département.
Oui, tout à fait.
Très bien. Comment se passe, est-ce que vous pouvez nous décrire, tous les trois d'ailleurs, mais peut-être plutôt tous les deux, Dr Hirsch et Marie-Christine, la collaboration entre une association qui accompagne les patients et les familles, et puis le service médical sur place, comment se passe la collaboration, comment est encadrée, entre guillemets, peut-être l'association au sein de l'unité ?
Alors, ça passe d'abord par une voie conventionnelle, évidemment. Mm-hmm. Hein, les bénévoles viennent dans le service pour rencontrer et accompagner les patients ou leurs familles. Ils sont pour nous le témoin d'une ouverture du service, en fait, à la vie civile, au lien social, en plus de tous les autres intervenants plus dans le champ médical ou du soin. Et c'est une occasion de rencontre, parfois d'échange, parfois aussi de présence silencieuse. C'est assez spécifique aux unités de soins palliatifs et c'est, je dirais, historique depuis la naissance des unités de soins palliatifs et même avant des soins palliatifs en Grande-Bretagne, qu'il y ait une ouverture de ces lieux à des représentants, des acteurs de la société civile et du lien entre les êtres.
Quel est le quotidien dans une unité de soins palliatifs pour accompagner les patients qui sont accueillis chez vous ?
Alors, c'est d'abord du soin, ouais, évidemment, puisque c'est des personnes, quand on est accueilli en unité de soins palliatifs, c'est qu'il y a des complexités qui peuvent être de l'ordre de la douleur, de l'ordre des inconforts respiratoires, digestifs, de l'ordre aussi des difficultés dans le vécu de la maladie, d'un besoin un peu de retrouver du sens à ce qui se passe, si bien qu'en fait, qu'est-ce qui caractérise la vie dans une unité de soins palliatifs ? Tout d'abord, c'est des horaires extrêmement libres, c'est-à-dire que nous avons la capacité de pouvoir nous adapter aux souhaits et aux besoins du patient. S'ils veulent se réveiller à 9h, ils se réveilleront à 9h, ils prendront leur petit déjeuner à 10h. Les soins vont entièrement être pensés en fonction des besoins et des capacités de la personne. Ça, c'est extrêmement important. C'est donc d'abord respecter le rythme de la personne. Après, c'est bien entendu mettre en œuvre tout ce qui peut la soulager, que ça soit dans le champ des thérapeutiques, mais aussi des thérapeutiques non médicamenteuses. Nous avons des collègues qui sont formés à l'hypnose, à la relaxation. Une socio-esthéticienne intervient, notre psychomotricienne, pour s'ouvrir tous les champs de ce qui peut aider et soulager la personne malade. Et puis, nous avons aussi, je dirais, une bonne part de notre activité qui est du temps d'accompagnement des proches. Parce que dans notre quotidien, s'occuper d'une personne qui a une maladie grave, qui peut être éventuellement en fin de vie, c'est accorder évidemment beaucoup d'attention et de soins à la personne, mais c'est aussi beaucoup d'attention vers les proches. C'est un ensemble qui est touché par la maladie et par la gravité. Et c'est cet ensemble de personnes qu'il faut aider.
On a l'impression, avec ce que vous me le décrivez très bien, je ne connais pas, moi, à titre personnel, ces espaces-là, tant mieux, je pense.
C'est très vivant, vous pourriez venir, c'est plutôt... contrairement à ce qu'on peut penser, on pense toujours, vous savez, dans la population générale, les soins palliatifs sont associés, dès qu'on parle de soins palliatifs, c'est associé à la dimension de mort, de tristesse. En fait, il faut rentrer dans ces services-là. C'est des services plutôt très vivants. On fait beaucoup de choses du côté du soutien de la vie.
En tout cas, vous me le décrivez comme, comme une espèce de bulle au sein d'un univers médical et hospitalier qui est assez ouvert, où on peut être amené, nous, à aller à l'hôpital pour des rendez-vous, aux urgences, etc. Est-ce que vous me décrivez ne correspond pas à l'image que je vois quand je vais ponctuellement à l'hôpital? Vous êtes assez isolé, entre guillemets, du reste des unités hospitalières?
À la fois oui et non, ouais. Nous sommes dans une vie institutionnelle, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose du rythme qui est différent dans une unité de soins palliatifs, du rythme et de l'ambiance. Nous sommes en capacité, parce que nous avons aussi le nombre de professionnels nécessaires pour pouvoir se poser, pour pouvoir accueillir la personne, les proches. Par exemple, dans notre service, nous avons des salons qui sont exclusivement dédiés à l'accueil des familles pour discuter. On ne discute pas dans les couloirs, non, on se pose, les collègues, on se prend un thé, un café, et on échange, on accueille les familles et les patients dans ce qu'ils vivent. Et je pense que c'est ça qui est caractéristique et qui fait vraiment la différence avec d'autres services où, en fait, les rythmes sont beaucoup plus imposés, de fait. Nous, le principe, c'est que c'est le rythme du patient qui prime.
Nicolas, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur la description qui vient d'être faite des unités de soins palliatifs?
Elle était parfaite. C'est vrai que c'est un service hospitalier qui est
particulier.
Particulier, ouais. et pas forcément conventionnel, où c'est vraiment le service qui va s'adapter au rythme du patient. Ou parfois, certains services, on peut avoir l'impression que c'est l'inverse.
J'aimerais qu'on entre un peu dans le détail, notamment de cette convention citoyenne. On a beaucoup parlé pendant que le groupe travaillait sur des termes que j'aimerais qu'on définisse, comme l'aide active à mourir, le suicide assisté et l'euthanasie. Est-ce qu'on peut dégrossir un petit peu ces trois termes-là, notamment?
Alors, le terme d'aide active à mourir a été vraiment mis en avant dans le dernier avis du CCNE, qui doit être l'avis 139 de mémoire de septembre dernier, pour en effet essayer de clarifier des choses qui sont souvent assez mélangées, pas très claires. Alors, peut-être que la première définition qui serait importante à donner, c'est la définition des soins palliatifs, comme je l'ai dit. Parce que celle-là, souvent, elle est très pas bien comprise. Les soins palliatifs, ce sont des soins qui s'adressent à une personne atteinte d'une maladie grave, maladie qui met en jeu potentiellement la vie, mais que ça soit à court, moyen ou long terme. Ce ne sont pas des soins qui sont uniquement réservés aux patients en fin de vie. Et ça, c'est la première différence qu'il faut faire entendre. Les soins palliatifs peuvent être commencés maintenant extrêmement tôt dans le parcours de la maladie. On est maintenant à mettre beaucoup en avant ce que l'on nomme les soins palliatifs précoces, parce que l'on sait, on a maintenant des études depuis une quinzaine d'années, que la mise en œuvre précoce des soins palliatifs s'accompagne d'une meilleure qualité de vie et même d'une meilleure quantité de vie dans certaines situations. Donc les soins palliatifs, c'est des soins qui sont ouverts à toute personne, normalement, nous dit la loi, en établissement, en EHPAD ou à domicile, et qui requièrent l'intervention des acteurs du soin habituel, mais aussi parfois d'équipes spécialisées, les équipes mobiles qui peuvent être départementales, comme celle auxquelles appartient Nicolas, les équipes mobiles intra-hospitalière, et puis parfois on a besoin d'une unité spécifique, c'est l'unité de soins palliatifs. Donc le premier déplacement qu'il faut faire par rapport aux représentations, c'est de cataloguer uniquement les soins palliatifs dans la question de la fin de vie et du mourir, alors qu'en fait c'est un espace du soin beaucoup plus vaste. Ensuite, l'avis du CCNE nous dit qu'il faut préciser. Alors, cette aide active à mourir, elle peut revêtir plusieurs formes. La première forme, c'est l'assistance au suicide. Là, c'est la personne qui, bien sûr, toujours elle-même décide, mais met en œuvre le geste létal en prenant un médicament qui a donc été prescrit dans un cadre d'un protocole qui peut être variable d'un pied à l'autre. Il y a délivrance du médicament par le pharmacien, la personne prend ce médicament dans un contexte qui est assez différent entre, par exemple, l'Oregon, où là, quand vous avez suivi un certain processus, délivrance de l'ordonnance, de médicaments à domicile, vous commettez votre acte de suicide quand vous le voulez, ou par exemple la Suisse, où c'est confié, l'organisation de cette assistance au suicide est confiée à des organisations.
J'allais y venir plus tard, mais vous faites bien de le dire.
Ça, c'est l'assistance au suicide. Ensuite, l'euthanasie, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne à l'aide d'un médicament le plus souvent injecté ou ingéré pour faire cesser une situation insupportable. Là, le geste est un geste fait par un acteur du soin avec comme implication directe la survenue du décès du patient.
C'est l'objectif d'une euthanasie.
C'est l'objectif d'une euthanasie, c'est mettre fin à la vie parce qu'il y a
par un acte médical.
Par un acte médical soignant, parce qu'il a une situation de vie insupportable. Alors là, c'est pareil, selon les pays, que ce soit en Europe ou à l'étranger, les dispositions législatives et réglementaires sont assez variables. Il peut y avoir une dépénalisation. Par exemple, en Belgique, si vous respectez un certain nombre de critères, vous n'êtes pas pénalisé. Mais il y a d'autres organisations. Ces deux modalités extrêmement différentes, notamment, non pas dans la question du souhait de la personne, mais dans la question, par exemple, de l'implication des acteurs du soin. Ces deux modalités sont regroupées sous le terme d'aide active à mourir.
Très bien. Au niveau de l'association, Marie-Christine, comment avez-vous vécu cette convention citoyenne, les résultats qui en ont découlé ? On sait que le SFAP n'est pas favorable à cette aide active à mourir.
Nous, je dirais qu'on s'adapte, hein. On est à l'écoute avant tout des personnes que l'on rencontre. Je dois dire que dans le nombre d'années où j'ai accompagné, ça fait presque 15 ans que j'accompagne, j'ai dû entendre deux personnes me dire qu'ils voulaient être euthanasiés. J'ai pas trouvé que c'était si courant que ça. Mmh. Maintenant, il y a certainement des choses à entendre et cette convention, elle est importante, cette convention citoyenne, je pense qu'elle est importante, il faut en tenir compte. Mais on s'aperçoit, nous, à l'usage, que souvent, ce sont les bien portants qui nous disent « si je suis malade, je vais être euthanasié ». En fin de compte, Godefroy pourrait en parler, et puis vous également, je pense. Mais on s'aperçoit que les gens malades, quelquefois, tiennent à la vie encore très longtemps, parce qu'ils ont envie de voir encore des petits-enfants naître, des familles qui s'agrandissent, accompagner encore leurs proches, être là, quoi. Ceci dit, JALMAP n'est pas du tout fermé à la discussion par rapport à ça. C'est tout à fait normal qu'on soit à l'écoute et qu'on réponde aussi également aux besoins qui sont là, quoi. Donc, je pense qu'on avancera avec les décisions qui sont faites, mais c'est vrai qu'on prône avant tout la vie, hein.
Très bien. Nicolas, avant de faire une petite pause, votre avis, alors pas tant sur les résultats, mais sur comment a été vécu aussi les résultats de la Convention citoyenne. Je lisais qu'au sein des équipes de réanimation, on était très favorable à cette aide, à la mise en place d'une aide active à mourir. Ça fait partie, après, de ce que j'ai lu, hein, des corps de métier qui sont le plus favorables à cette avancée-là.
Ça peut toujours nous bousculer un petit peu dans l'équipe. Ça nous a mis beaucoup à la réflexion.
Ouais. C'est toujours intéressant, j'imagine.
Oui, c'est toujours très riche. Ouais. On s'interroge pas mal sur quelle va être notre pratique dans les soins.
Ça redéfinit la question du soin. Est-ce que donner la mort ou accompagner vers la mort, c'est encore soigner ? C'est des questions philosophiques qu'ont traversées justement la Convention citoyenne.
Ça, c'est une vraie question. Ce qui nous met au travail pas mal, c'est quelle place va avoir notre équipe, notre équipe qui est en appui, en conseil des professionnels si la loi évolue. C'est pas un moment facile. On se dit que la loi actuelle aussi elle nous semble pas assez connue, peut-être pas assez appliquée, et qu'il y a aussi un travail à faire autour de ça. Nous, ce qu'on a aussi cherché à travailler, c'est, c'est autour de ces souhaits de mourir, comment les écouter, comment les entendre, comment continuer à travailler et à accompagner le patient autour de ça. Est-ce que la loi viendra apporter une réponse? J'en ai pas.
Docteur Hirsch. La Convention citoyenne le note d'ailleurs à plusieurs reprises. Et puis, il y a une interview tout à fait récente du ministre de la Santé, François Braun, qui pointe que pour de nombreux soignants, la question de pratiquer un acte qui mette fin à la vie est excessivement difficile. Vient beaucoup remettre en cause l'engagement dans le soin, l'engagement auprès de la fragilité de la personne. Pour en avoir discuté avec des médecins belges, qui eux pratiquent
depuis une vingtaine d'années, je crois.
Depuis 2002, oui. Ils nous disent bien que c'est un geste extrêmement difficile, ce n'est absolument pas anodin, ce n'est pas banalisé, notamment parce qu'il y a quelque chose qui est de la causalité. On fait un geste d'injection et la personne décède. Et cette espèce de raccourcissement du temps n'est vraiment pas simple. Et vous avez vu, puisqu'il y a un certain nombre de prises de position par les associations, d'ailleurs assez variées, autant certains peuvent comprendre, entendre la question de l'assistance au suicide, autant inscrire un geste de donner la mort dans une démarche soignante est pour un certain nombre de soignants, dont moi par exemple, extrêmement difficile à penser parce que ça vient totalement être à côté et même en contre d'une attention à la fragilité de l'autre, d'une clinique de la fragilité qu'on a tous les jours. Donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi vigilant à ce que les éventuelles évolutions législatives, quelle place on donne aux soignants. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que la clause de conscience a été aussi évoqué dans
les résultats
dans ce rapport de la conférence citoyenne.
On fait une petite pause, un peu de légèreté autour du sujet, puis on se retrouve tout de suite après avec un de mes invités.
Il paraît qu'on voit toute sa vie défiler quand on est sur le point d'y passer. Il paraît qu'on sait le moment arrivé quand l'ultime projection est lancée. Que tout comme un petit film à l'accélérer. Il paraît qu'on n'y voit pas les moments mauvais, qu'on pardonne tout, je sais pas si c'est vrai. Il paraît qu'on n'a pas peur, que la mort n'est rien, pas encore là et hop, déjà loin. Que tout te revient comme un petit film. Super 8 avec soleil, flou artistique, des amis dans l'herbe, ma frange, une scène prise au hasard, mais tranquille, j'aimerais un film en Super 8, j'aimerais un film. Il paraît qu'on voit toute sa vie défiler quand on est sur le point d'y passer. Il paraît qu'on sait le moment arrivé quand l'ultime projection est lancée. Pense-t-il au cadrage, à l'image, à ce moment-là, et l'ouvreuse au pop-corn, au bar de chocolat qui précède la séance. Est-ce que tout leur revient comme un petit film à l'accélérer? Moi, j'aimerais un film en Super 8 avec mais tranquille. J'aimerais un film en Super 8. J'aimerais un film. Il paraît qu'on veut tous mourir en dormant, ne pas se réveiller, c'est tentant. Sa vie, ses sommeils et ses plus belles nuits. Toutes les fois où on a somnolé en cours, au ciné ou juste après l'amour, est-ce que tout revient comme un petit film à l'accéléré, comme un petit film à l'accéléré.
C'était Jeanne Chéral avec la chanson Super 8. Messieurs, dames autour de la table, pourquoi, on en parlait avant la pause, pourquoi la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et d'autres, qui sont des démocraties similaires à la nôtre, ont autorisé ces pratiques et que vraisemblablement ça se passe bien?
Alors il y a eu une spécificité du choix français, notamment au niveau législatif et développement des soins palliatifs. Le choix français, ça a été déjà depuis longtemps, ça commence avec la loi du 4 mars 2002, puis surtout la loi Leonetti en 2005, d'insister sur l'importance de la parole et du choix de la personne malade concernant les décisions à prendre, et notamment en fin de vie. Et déjà avec la loi Leonetti, il avait été ouvert tout un espace de réflexion, mais non seulement pour associer la personne à ses décisions, mais pour que ses souhaits concernant la fin de vie puissent être écoutés et mis en œuvre. Ça a été même renforcé par la loi dite Claeys-Leonetti de 2016, qui par exemple font que ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est-à-dire ce que souhaite la personne concernant sa fin de vie, soit appliqué, à part deux exceptions, de manière ferme, parce que c'est la personne qui souhaite, par exemple, ne pas bénéficier d'un dispositif de suppléance de la vie. Donc on a eu tout un cheminement législatif, s'accompagnant par ailleurs d'un certain développement des soins palliatifs, qui font que l'évolution française a pris cette forme-là. Dans d'autres pays, notamment européens, ça a pris d'autres formes. Mais nous avons quand même une spécificité avec la loi Leonetti et Claeys-Leonetti. C'est-à-dire que le terrain législatif n'est pas vierge.
Est-ce qu'on peut parler de... C'est un terme qui a aussi émergé pendant ces réflexions, de directives anticipées. Qu'est-ce que c'est?
Les directives anticipées, c'est vraiment... le problème est comment, moi, personne malade, je peux manifester aux yeux de tous, et bien entendu des médecins, mes souhaits concernant la fin de vie, notamment mes souhaits de non-obstination déraisonnable, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. Si je suis dans une certaine situation, par exemple de dépendance de la technique, que ça soit un rein artificiel, une machine pour respirer parce que j'ai une maladie pneumologique ou neurologique, je peux estimer que c'est trop, que c'est du trop pour moi, que c'est de l'excès. Et du coup, ça, il faut pouvoir le signifier. Le signifier tant qu'on est, bien entendu, en capacité de donner son avis. Il y a deux manières de pouvoir le signifier. D'une part, la manière qui est mise le plus en avant par la législation actuelle, c'est les directives anticipées. C'est-à-dire, on remplit soit un formulaire qui existe, qu'on peut télécharger à partir de santé.gouv, soit sur même papier libre, ce que je souhaite, et je préfère aussi dire aussi, ce que je ne souhaite pas vivre dans ces moments de fin de vie ou dans ces moments où la vie peut être menacée. Et puis, il y a une deuxième dispositif qui est prévu par le législateur, c'est qu'une personne soit mon porte-parole, qu'une personne puisse exprimer mes souhaits parce que je lui en ai parlé. C'est ce que la loi appelle la personne de confiance. Et moi, j'invite vraiment toute personne à penser ce qu'elle souhaite ou pas concernant sa fin de vie, à rédiger des directives anticipées, à en parler à quelqu'un et à désigner une personne de confiance. Parce que là où il nous faut aussi progresser, tous, collectivement, notre société, c'est pouvoir parler de la fin de vie, tranquillement aussi, j'allais presque dire en famille, pas rentrer obligatoirement dans des débats idéologiques, mais simplement dire, voilà, moi, si je devais me projeter, voilà plutôt ce que je souhaiterais. Et ça, c'est très important. Qu'on sorte un peu aussi, et c'était bien noté dans la Convention citoyenne, qu'on sorte aussi de ce tabou où on a du mal à discuter de la maladie grave, de cette période de fin de vie. C'est tellement important.
On parlait tout à l'heure de la Suisse et vous disiez que effectivement le suicide assisté, puisque c'est la règle en Suisse, était géré par des organismes. Et en l'occurrence, ce sont des associations. Donc je me retourne vers Marie-Christine. Alors vous n'êtes pas à gérer le suicide assisté en France. Est-ce que, et pour revenir sur les directives anticipées et les discussions que vous pouvez avoir avec les patients, les familles, comment et appréhender toute cette question, voilà, du soin palliatif, de la fin de vie, de l'accompagnement dans les maladies longues.
Alors, les directives anticipées, nous, c'est un peu notre cheval de bataille. Ouais. Hein, on en parle beaucoup à Jeanne-Malve. C'est très peu connu, souvent. C'est très peu connu. On ne peut pas en parler n'importe comment à quelqu'un qu'on rencontre dans une chambre, parce que ça peut être très, très mal vécu. Il faut vraiment que ce soit une demande, que la personne ait envie d'en entendre parler.
On a besoin de faire beaucoup de pédagogie à
voilà.
ce niveau-là.
Il faut savoir jusqu'où on peut aller par rapport à ça. Et quand c'est une demande, bien sûr... On leur propose éventuellement d'en discuter avec la famille, d'en discuter autour d'eux, de ce qu'ils ont envie d'écrire, de ce qu'ils ont envie ou pas envie. Et éventuellement, bien sûr, de nommer une personne de confiance. Alors ça, c'est pas toujours compris non plus. C'est pas obligatoire, les directives anticipées, d'avoir une personne de confiance, bien sûr. Mais comme a dit Godefroy, c'est bien. C'est plutôt... ça facilite un peu les choses. Le problème, c'est quand on leur dit « Avez-vous nommé une personne de confiance ?» Quelquefois, les gens ne comprennent pas tout à fait de quoi on parle. Ils nous disent « Bah si, j'ai ma fille, elle vient me mettre la télé, elle va venir me chercher. » Il y a une confusion avec le fait que ce sera une personne qui aura à prendre des décisions à sa place si elle n'est pas en capacité de les prendre ou qui, éventuellement... parlera des directives anticipées de cette personne, quoi, et qui demandera à les mettre en pratique pour elle. Et c'est vrai que c'est important. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être être étonnant. Certains médecins ne connaissent pas les directives anticipées.
Donc, il y a un vrai gros travail de pédagogie.
On s'en est déjà aperçu.
À ce niveau-là. Et donc, vous participez à, comme le disait le docteur Hirsch, à déconstruire, à démolir le tabou autour de cet accompagnement, notamment avec cette question des directives anticipées.
Bien sûr, bien sûr.
D'être capable d'en parler en famille avec les accompagnants de fin de vie. Ouais.
Les bénévoles Jeanne-Malve accompagnent les personnes qu'elles rencontrent, les personnes malades, bien sûr. Alors, fin de vie, maladie, longue maladie, oui. Et personnes isolées. N'oublions pas les EHPAD, où il y a beaucoup de gens isolés qui ont aussi besoin de cette écoute, et c'est important. Ils ne sont pas forcément malades, hein. Ils sont vraiment dans un isolement qui vraiment nécessite un accompagnement, une écoute des bénévoles. Mais en général... on essaie d'accompagner aussi les familles, on n'accompagne pas que la personne, on essaie d'être là pour les familles. Ils ont quelquefois des choses à dire qu'ils n'osent pas dire à la personne, leur proche qui est malade, et c'est nous qui recevons cette confidence souvent en dehors de la chambre, comme dit Godefroy, dans un petit salon ou s'ils ont envie de nous rencontrer dans notre local. Alors voilà, on est dans cette écoute là aussi, parce que c'est important, je crois, au moment où on va perdre un proche, qui est quand même cette écoute, c'est très important.
Chaque semaine dans La Lorgnette, nous vous faisons une recommandation. Cette semaine, je vous renvoie vers l'émission d'Arte qui s'appelle 28 minutes, qui date du lundi 3 avril, où l'animatrice Elisabeth Quin recevait deux médecins, dont nous allons l'entendre dans l'extrait, Jean-Louis Touraine, professeur de médecine, et la journaliste au journal La Croix, Isabelle de Golemin.
Il faut respecter les personnes qui veulent attendre la fin naturelle. Il faut que ça soit enfin totalement respecté, ce qui n'est pas le cas, puisque d'après l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, il y a 1200 à 4800 euthanasies clandestines effectuées chaque année en France. Ces gens-là, pour une bonne partie d'entre eux, ne le souhaitaient pas. Ça leur est imposés contre leur gré. Donc c'est quelque chose qui est grave. Mais inversement, il y a des gens qui veulent être dispensés d'agonie et qui, quelle que soit la qualité des soins palliatifs, et je veux redire, même s'ils sont en quantité insuffisante dans notre pays, mais leur qualité est remarquable. Et tout le monde s'accorde pour dire que les personnels dans les services de soins palliatifs sont extraordinairement dévoués. Mais malgré tout, et ça a été étudié par les acteurs des soins palliatifs, les gens qui demandent une aide active à mourir, en entrant dans un service de soins palliatifs, si vous les interrogez une semaine après, quelle que soit la qualité de leur prise en charge, un peu plus de la moitié continue à le demander après, parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est cette agonie, ni être endormi par la sédation profonde et continue, laquelle est moins appliquée aujourd'hui qu'avant la loi Castellani. Donc on a un paradoxe. La loi Castellani a introduit une possibilité qui est l'endormissement, en définitive, du malade en fin de vie.
Sédation profonde et continue.
Exactement. Eh bien, ça se fait moins qu'avant la loi.
Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Parce que ce n'est pas ce que les gens souhaitent. Dans les pays qui offrent l'aide active à mourir, la sédation profonde et continue, et puis l'attente de la fin naturelle, la plupart des gens soit attendent la fin naturelle, et c'est la majorité, la grande majorité, soit, et ça représente seulement 2,5% de l'ensemble des décès, une aide active à mourir. Mais la sédation profonde et continue, qu'est-ce que ça veut dire ? On vous endort et on vous prive de tout contact jusqu'à ce que vous soyez mort. Est-ce que c'est ça que vous... Soit vous dites, bah, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de possibilité, autant que tout s'arrête. Soit vous dites, non, je veux garder un contact avec les gens que j'aime. Je veux pouvoir leur dire quelque chose. Je veux pouvoir leur témoigner mon amour.
Ça veut dire, vous dites qu'il y a des manques dans cette loi Claes-Leonetti, Isabelle de Gomain. Ça veut dire, de toute façon, quoi qu'il en soit, cette loi va changer. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette loi va changer.
Le problème, ce n'est pas tant qu'il y a des manques, mais c'est qu'elle n'est pas bien appliquée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... D'abord, il y a, je crois que c'est 24, 25 départements où il n'y a pas de soins palliatifs. 26, donc là, déjà, on ne peut pas l'appliquer. Il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a beaucoup d'EHPAD aussi où il n'y a pas de soins palliatifs, donc on ne peut pas l'appliquer non plus. Ouais. Donc, il y a déjà ça, il y a déjà un manque de personnel, de culture palliative. Donc, la loi Claes-Leonetti avait quand même demandé à ce que les soins palliatifs soient développés, élargis. Ça n'a pas été fait malgré un certain nombre d'efforts, mais il n'a pas été à la hauteur. C'est la première chose. La seconde chose, c'est souvent que les gens ne savent pas eux-mêmes. Il y en a très peu qui ont rédigé eux-mêmes leurs directives anticipées. Il y en a très peu qui ont préparé ce moment. La mort, elle reste encore aujourd'hui un tabou. Et c'est vrai qu'il faudrait déjà que les gens arrivent dans ces services en ayant un peu une idée de ce qu'ils veulent, en ayant discuté avec leur famille, avec leurs proches, en ayant discuté avec le médecin. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Et si la moitié renonce quand même à effectivement une aide à mourir, ça veut dire quand même qu'il y a la moitié qui renonce, il y en a la moitié qui veut. Donc il y en a quand même beaucoup qui renoncent une fois qu'ils sont pris en soins palliatifs. Oui.
Je vous renvoie donc à cette émission du 3 avril, l'émission 28 minutes sur Arte. Nous mettrons le lien sur le site du podcast. Nicolas, au-delà de la fin de vie, il y a une vraie question, je trouve, qui se pose sur les soins palliatifs et notamment à l'écoute de cet extrait. Il y a certains départements, donc, comme il était dit, qui sont non dotés en soins palliatifs. On manque a priori de formation de personnel et de personnel eux-mêmes qui sont en sous-effectif. À l'image peut-être de ce que j'ai l'impression de percevoir dans l'hôpital public de manière générale, est-ce qu'il ne faudrait pas, en même temps que de revoir la loi et de continuer à discuter sur la fin de vie, à continuer à développer les unités de soins palliatifs ? Est-ce que c'est une partie de la solution ?
Je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit et que j'ai pu entendre pas mal dans les médias, de dire qu'il y a des départements qui ne sont pas dotés en soins palliatifs. C'est pas tout à fait ça, c'est qu'il y a des départements où il n'existe pas d'unité de soins palliatifs. Après, dans tous les départements, on délivre et on accompagne les patients qui relèvent de soins palliatifs. Ça se fait dans tout lieu de soins, les infirmières, les aides-soignantes en EHPAD. On a l'habitude, par exemple, d'accompagner les résidents, des services de médecine aussi. Après, la question est quand la situation se complexifie un petit peu. Donc là, on a différents un petit peu niveaux, comme expliquait le docteur Hirsch tout à l'heure. Il peut y avoir dans certains services ce qu'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs. Donc c'est pas des lits physiques, mais c'est de dire que dans un service qui n'est pas une unité de soins palliatifs, qui est un service de médecine, on définit qu'il y a trois lits pour accompagner des patients qui ont besoin d'un peu plus de temps pour faire les soins, d'un accompagnement un peu plus spécifique, pluridisciplinaire. Donc il y a ça qui existe sur le département du Loir-et-Cher notamment. Il y a l'hôpital de Montrichard, de Romorantin, de Saint-Aignan qui a des lits identifiés et la polyclinique de Blois aussi. Et quand la situation est un peu plus complexe, qu'on a besoin... par exemple, d'un regard un peu extérieur, un peu neuf à la situation, il y a l'équipe mobile de soins palliatifs qui est une équipe un peu experte et qui peut amener ce regard, qui peut amener un temps pour se poser et continuer à enrichir la réflexion aussi. Et si c'est encore parfois le niveau un peu au-dessus, un peu plus complexe, il y a l'unité de soins palliatifs. Tout patient ou toute personne qui relève de soins palliatifs n'a pas forcément besoin d'une équipe mobile ou d'une unité de soins palliatifs. Hein. C'est, il existe des formations à plusieurs niveaux. Ça peut être des sensibilisations à la journée, ça peut être des semaines, ça peut être sous forme de diplôme universitaire de soins palliatifs. L'équipe d'appui, on est amené à délivrer aussi des formations dans les EHPAD notamment. On n'est pas un organisme de formation, donc on n'a pas de catalogue. On s'adapte un petit peu à la demande, mais ça peut être autour des repères de soins palliatifs, un symptôme particulier autour de la douleur. On peut être amené à intervenir et faire quelque chose un peu à la demande auprès des équipes.
Voilà, c'est déjà pas mal. Est-ce que, docteur Hirsch, Marie-Christine, est-ce que vous voulez rebondir, notamment sur ce que disait la journaliste de La Croix, est-ce qu'on manquerait de culture de soins palliatifs en France qui serait justement le nœud du problème sur le fait que c'est un tabou et est-ce qu'il ne faudrait pas en avoir peut-être plus, c'est une question de moyens, d'effectifs, pour justement... pouvoir être plus présent et plus accompagné, plus discuter de tout ça avec les patients qui traversent ces unités.
C'est sûr qu'il y a des axes importants à développer encore, hein, même s'il y a eu un effort au cours des 15 dernières années. Mm-hmm. Il est à faire dans plusieurs directions. D'une part, comme on le disait tout à l'heure, et merci pour cette émission, il est à faire pour qu'on puisse parler aussi dans notre société de la question de la maladie grave, de la menace sur la vie et de la fin de vie. Sortir en effet d'un tabou qui n'est pas uniquement sur la mort, hein, qui est aussi, il y a aussi un tabou sur ce que veut dire vieillir, sur ce que veut dire être en difficulté, être isolé. Donc faisons exister, faisons exister aussi, un peu au cœur de notre société, toutes ces situations où il y a une vraie fragilité, déjà. Deuxièmement, il y a probablement, et c'est noté depuis déjà des années, un effort à poursuivre dans la formation des professionnels de santé en formation initiale. Ça, c'est sûr qu'il faut plus former encore les médecins et les infirmières et les soignantes à cette démarche palliative, à cette manière de pouvoir prendre en soin l'autre où que l'on soit, quand il y a une maladie grave qui menace la vie. Et puis aussi, vous l'avez dit, et c'est d'ailleurs bien noté dans le rapport de la Convention citoyenne, il faut aussi développer les moyens spécifiques dans les centres hospitaliers, mais aussi pouvoir doter, comme il existe dans notre département, mais pouvoir doter tous les départements d'une équipe mobile territoriale, d'une offre de soins palliatifs qui soit lisible aux yeux de tous, aux yeux des patients, aux yeux des professionnels de santé du département, pour que partout où l'on souhaite, il puisse y avoir, si besoin est, l'avis d'une équipe spécialisée en soins palliatifs ou l'accueil, si besoin est, dans une structure spécialisée. J'aimerais juste pour dire, faut pas hésiter de parler des soins palliatifs, il ne faut même pas hésiter à les solliciter. Hein. C'est pas un virus, les soins palliatifs. C'est une manière de prendre soin de l'autre. Et le constat que nous faisons tous les jours, c'est quand cette manière de prendre soin de l'autre, elle se met en œuvre, ça soulage les patients, ça soulage leurs proches. Et c'est vrai que dans une très grande majorité de cas, même, ça fait disparaître cette demande de mourir qui s'appuie d'abord sur une souffrance physique, psychique, morale, existentielle, face à laquelle il y a aussi d'autres manières de mettre en œuvre un soutien et pas uniquement prévoir quelque chose autour de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc c'est en ça qu'il faut continuer le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement partout en France. Et c'est fondamentalement un des enjeux pour les années à venir, parce que sinon, la balance ne serait pas équilibrée.
Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose à rajouter pour conclure cette émission ? Et puis nous allons nous quitter. Nicolas ? Non.
Si. Pas hésiter à solliciter notre équipe. On est parfaitement disponible autour de questions, d'ouverture à la réflexion. Il n'y a pas d'erreur à nous appeler. Oui.
Très bien. Je remercie donc Nicolas Bruza-Pasquet, infirmier au sein de l'équipe d'appui départementale de soins palliatifs du Loir-et-Cher, Marie-Christine Pierre Duvois, présidente de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie en Loir-et-Cher, et le docteur Godefroy Hirsch, donc médecin responsable de l'unité de soins palliatifs au CH de Blois. Merci à tous les trois, c'était passionnant, et on aura peut-être l'occasion de vous réinviter, notamment peut-être lorsque la loi aura été édictée, et on verra ce qu'il en ressort au niveau du travail législatif. On se quitte comme toutes les semaines avec le journal de bord d'un élu local, et puis après à 18h, c'est l'ami Christophe avec la Roxette. Merci à tous les trois et à très vite dans la lorgnette. Salut à tous.
Bonjour Nicolas.
Salut Gaël.
Nicolas, je viens de te quitter. Tu étais juste à l'instant sur Studio ZF.
Ouais.
Ouais, tu parlais à Thomas et tu racontais Life, dont on a parlé dans un épisode précédent.
Oui, c'était un exercice de démocratie avec du tirage au sort autour de... des questions d'énergie, voilà.
D'accord.
Comment on fait avec les citoyens pour penser ces questions et accueillir leurs propositions et les soutenir.
On pourrait dire que c'était un exercice de démocratie vivante et permanente.
On peut dire ça.
On pourrait dire ça, et ça me fait une excellente introduction pour présenter Christine Robin, qui est notre invitée aujourd'hui. Christine, bonjour.
Bonjour.
Tu es coprésidente de Blois Naturellement.
Oui.
Votre groupe avec Nico et les...
Vous êtes neuf élus
qui siégeaient au conseil municipal de Blois. Tu es également adjointe à la démocratie vivante et permanente. Et on va parler un peu de ça aujourd'hui. On va parler d'abord un peu de toi et de d'où tu viens. Et je vais trouver une super façon de faire le lien avec ton combat syndicaliste et de tes débuts en politique.
Pas que syndicaliste en fait, hein. Ouais. Depuis, en fait, j'ai l'impression que j'ai baigné dans, non pas la lutte, hein, parce que je veux pas que la vie soit un combat, même si des fois c'est pas facile, mais plutôt dans l'engagement. Voilà, c'est ça, je crois, qui depuis, mon âge adulte, m'a guidée à la fois la vie associative et puis la vie syndicale et la vie politique, parce que avant d'être engagée à la mairie de Blois, j'ai vécu quelques campagnes municipales là où j'habitais avant. Sur Romorantin, oui. Sur Prunier d'abord, et puis après sur Romorantin. Donc, ouais, je ne sais plus, c'était deux ou trois expériences de campagne municipale où j'étais candidate, mais on n'a pas eu d'élu.
D'accord. Alors, du coup, je ne savais pas que tu avais été syndicaliste. Tu faisais partie de quel syndicat ?
La CGT.
Ok.
Alors, moi, ça a été vraiment des rencontres fantastiques. Alors, quand j'ai adhéré à la CGT, en fait, j'avais le choix. J'étais dans deux établissements scolaires et il y avait un représentant de la CGT qui était pour moi un sale con dans l'établissement. Et dans l'autre établissement, c'était une nana qui était à l'écoute, qui expliquait plein de choses. Et je me suis dit, ouais, voilà, moi, un syndicat, pour moi, c'est ça. Donc, je me suis engagée. Puis après, j'ai rencontré... des gens de l'union locale et l'union départementale, ça c'est l'interpro, puisque après on est dans un syndicat professionnel, c'est-à-dire que moi j'étais dans le syndicat de l'éducation nationale, et à l'interpro, là j'ai découvert le monde ouvrier notamment, et le militantisme, les sorties d'usine, et puis j'ai trouvé ça génial, quoi, parce que c'était vraiment le brassage de plein de gens. Alors après, avec des grandes gueules, j'étais pas d'accord avec tout, mais au moins, il y avait une vie collective et une défense du collectif.
Comment ça se fait, à ton avis, que il y a plus de culture du syndicat ? Enfin, moi, c'est l'analyse que j'ai.
Mais t'as raison. Hein. Je pense que l'individualisme s'est développé petit à petit dans la société. C'est lié, je sais pas, à l'être humain. C'est lié aussi aux politiques nationales qui ont été menées. C'est pas un désintérêt. C'est un désintérêt pour la chose politique, un désintérêt pour la chose syndicale, c'est-à-dire l'action commune, qui fait que y a eu de moins en moins d'adhérents dans les syndicats, et puis aussi moins en moins de gens qui veulent prendre des responsabilités, et puis voilà, on en est là aujourd'hui.
Toi, t'as jamais fait partie d'un syndicat ?
Non.
Mais c'est la même chose dans le monde associatif. Hein.
Oui.
On a un problème avec l'engagement, on a un réel problème avec l'engagement. L'engagement des jeunes, enfin après, certains jeunes s'engagent différemment, pas forcément dans la politique, dans les syndicats.
Bon, on doit recevoir un syndicaliste dans pas longtemps, et franchement, ça m'intéresse parce que...
Ah, c'est une Sébastien super Boulanger. École. Comment ?
C'est Sébastien Boulanger qui est en partie salarié de la CGT et qui est souvent celui qui prend les prises de parole sur toutes les manifs pour la CGT.
Ça a changé pas mal, je ne connais plus parce que je ne milite plus du tout, moi, syndicalement. Ça fait des années, mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment, vraiment... Ça et la vie associative, ça a été une belle école de faire ensemble. De faire ensemble, de débattre, de confronter nos idées, d'entendre... De recevoir des trucs qui n'étaient pas faciles, parce qu'à la CGT, parfois, ils sont rudes. Hein. Enfin, les ouvriers, ils sont rudes. Enfin, les ouvriers, non. Je ne vais pas dire ça, je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas les ouvriers, mais certains. Bon, on m'a renvoyé des trucs. Mais c'était génial. C'était génial. T'apprends. T'apprends. Et puis, ce n'est pas parce que t'es prof que... Voilà, tu vois, c'est ce qui te renvoyait aussi. T'es prof, tu nous comprends pas, ou tu parles un langage qu'on comprend pas. Enfin bon, oh, je me disais, merde.
Et c'est
pourtant, j'étais en LP, moi.
C'est pour ça que tu as choisi la délégation démocratie sur l'histoire du faire ensemble, et c'est ça qui a pu t'attirer en politique là.
C'est la délégation, elle allait bien. Parce que pour moi, c'était ce qui était le plus naturellement possible dans... Après le parcours que j'avais eu, voilà. Et puis il y avait un peu aussi, un petit peu quand même Charles Fournier derrière. J'avais bossé un peu à la région, j'avais vu ce qu'il avait entrepris et c'est vrai que je trouvais ça plutôt chouette.
Alors on parlait de Charles Fournier, c'est qui ?
On l'a reçu ici.
Ah oui, c'est vrai. Racontez-moi.
Oh, c'est un petit bonhomme qui est engagé depuis très très longtemps dans la vie associative, dans l'éducation populaire, et puis qui un jour s'est retrouvé élu à la région et qui a eu envie de s'emparer de la démocratie vivante et permanente à la région. Il trouvait que les politiques n'allaient pas assez vers les citoyens, et il a eu envie de faire ça. Il a fait un super truc qui s'appelait la tournée de la démocratie permanente. C'est ça, Nico ?
Ouais. Dont il nous a parlé ici.
Ouais.
Mais après, au-delà de Charles, moi, je pense que le mouvement écologiste s'est construit autour de ça. C'est-à-dire que quand ça s'est construit, l'idée forte, c'était de comment on fait de la politique autrement et comment on fait de la politique avec les gens. Et c'est ce qui a créé ces statuts un peu compliqués, avec des fois une vue de l'extérieur où t'as l'impression que c'est le bordel en interne.
C'est l'image que ça...
Voilà. Ouais, mais en fait, ça, c'est né, justement, on va dire, d'un joyeux bordel sur... et des grands combats, comme sur le plateau du Larzac, etc., et de mouvements anarchistes, à l'origine, qui ont mené à l'écologie politique, sur comment on crée de l'horizontalité, comment on a des statuts qui protègent de la prise de pouvoir de l'un par rapport aux autres, et comment on fait ensemble, collectivement. Et tu vois, aujourd'hui... Je trouve qu'on garde cet esprit-là tout en réussissant à organiser les choses pour faciliter malgré tout la gouvernance, où est le juste milieu, mais en poussant beaucoup de lignes dans toutes les villes où les écologistes sont arrivés, sur comment on fait beaucoup plus fort avec les gens, et comment la démocratie, c'est pas juste le moment où on vote, mais aussi tout au long du mandat.
Et puis on cherche, hein, on cherche tout le temps, on cherche en marchant. Voilà, on voit bien que les écolos, ils se remettent en question et que dans les villes où on teste, c'est pareil. On se pose toujours des questions, on expérimente. Je pense que ça, c'est très, très important d'expérimenter pour pouvoir voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et puis ce qui fonctionne à un moment donné, ça ne fonctionne pas à un autre moment et ça ne fonctionne pas avec un autre groupe de personnes. Donc c'est ça la démocratie vivante et permanente aussi.
J'allais poser la question, c'est quoi vivante et permanente? Pourquoi on associe ces deux adjectifs à...
Eh bien vivante parce que... de toute façon, je pense que c'est indissociable l'un et l'autre. Elle ne peut pas être vivante et pas permanente. Donc vivante parce qu'il faut qu'elle infuse. Pour moi, ce terme-là, infuser, il faut qu'elle infuse auprès des citoyens continuellement. Donc c'est ça aussi, permanente. Et permanente parce que je pense que tout le monde, que ce soit les élus, les citoyens, devraient tout le temps se questionner sur les décisions qu'il faut prendre.
Ouais, et puis moi je pense que ça répond aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le dégoût du politique où on lui fait confiance puis finalement on est trahi. Et je pense qu'en fait cette trahison-là, vécue comme telle, c'est en réalité aussi issu du manque de démocratie. C'est-à-dire que quand tu fais avec, tu partages la responsabilité de tes choix, tu continues d'apprendre tout au long de ta vie de quelles sont les contraintes qui s'appliquent, etc. Et ça t'oblige à sortir de ton intérêt individuel pour penser à l'intérêt collectif quand tu vis ce que c'est que la démocratie et que tu dois prendre des décisions à plusieurs. Et du coup, ça participe aussi de l'éducation populaire, tout ça. Faire vivre la démocratie, c'est aussi continuer d'apprendre ensemble. Et je trouve que c'est aussi positif pour l'évolution de notre société parce qu'on a besoin d'apprendre à faire du commun. Pour réussir à faire face aux grands défis auxquels on est confronté aujourd'hui.
Mais moi, ça me semble indispensable, parce que quand on voit aujourd'hui comment les gens manifestent leur mécontentement, j'en parlerai un peu plus tard sur les différents dispositifs, mais moi, j'ai été très, très étonnée, et je le suis toujours, hein, quand on est dans des réunions publiques, que ce soit des réunions autour de projets ou que ce soit les réunions publiques qui sont organisées par le maire une fois par an dans les différents quartiers, moi j'ai l'impression qu'au-delà des présentations qu'on peut faire sur les grands projets qu'on va mettre en œuvre dans la ville, où on essaye d'expliquer, au-delà de ce temps-là, j'ai la sensation d'être dans un déversoir, c'est-à-dire que les gens viennent manifester leur mécontentement au pluriel et on a l'impression parfois qu'on est un peu attaqué et souvent j'ai la sensation que c'est parce que les gens ne connaissent pas, n'ont pas d'explication suffisante et voilà, ils viennent manifester leur...
Tu veux dire qu'ils n'ont pas assez d'informations et qu'ils viennent chercher l'information ou alors parce qu'ils ont aussi besoin d'être entendus?
Ben c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Ils viennent chercher l'information, oui, dans un premier temps, et après, ils viennent manifester un mécontentement parce que... Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup dans ma rue, sur mon trottoir, c'est pas comme il faut, est-ce que vous pensez à nous? Mais quand c'est... En fait, quand ils disent nous, c'est pas nous, c'est je. Et c'est là où ça me... Je vais dire que ça me choque et que ça me soucie, ça me chagrine parce que... Justement, on pourrait essayer de construire ensemble. Et moi, j'aimerais bien que cet intérêt commun, il ressorte dans tous les dispositifs qu'on a mis en place et qu'il ressorte, qu'il ressorte aussi dans tous les projets qu'on met en œuvre dans la commune.
Après, tu vois, je pense que déjà, tel que ça se fait habituellement, il y a ces deux éléments que tu donnes, c'est-à-dire on explique et on recueille. Et souvent... T'as un moment où tu expliques toutes les politiques publiques de la ville et pourquoi tu les mets en place, etc. Donc un moment de pédagogie où tu expliques pourquoi tu fais les choses, et un moment où tu recueilles juste après les colères, les inquiétudes, les questionnements, et où ça peut te nourrir pour ta vie d'élu. Mais on pense qu'on peut aller aussi parfois plus loin, que ça suffit pas forcément, juste ça. Parce que des fois dans l'organisation dont les choses se font, le simple fait d'être sur ton estrade, d'expliquer les choses et puis après de prendre les questions du public, c'est assez descendant Et dans ce type d'organisation-là, ceux qui prennent la parole sont toujours les mêmes. Ça donne, ça laisse pas forcément la... Souvent, tu as un petit pourcentage de gens qui osent s'exprimer pour proposer, un pourcentage un tout petit peu plus fort pour poser des questionnements, sans forcément donner des idées. Et puis 80% des gens qui écoutent, mais n'osent pas s'exprimer. Mmh. Et en fait, quand tu es dans un cercle de travail où tout le monde est au même niveau, où tu n'as pas ce côté arène, où chacun prend la parole à tour de rôle parce que les choses sont organisées comme ça, chacun peut s'exprimer. Et en fait, il y a plein d'outils qui ont été développés avec toutes ces expérimentations qui permettent de faire vivre la démocratie. Et sur le live qu'on a expérimenté aussi, c'est-à-dire il y a des méthodes, des manières de faire qui rendent les choses possibles. Avoir des animateurs, avoir un cadre, faire en sorte de donner la parole à tout le monde, tenir des temps, avoir une trame préparée. Je veux dire, la démocratie se prépare pour bien fonctionner.
Bon, alors, on va conclure ce premier épisode avec toi, Christine. Ouais, c'est vrai que ça passe vite, hein, je sais. On va parler un petit peu des dispositifs qui sont aujourd'hui à la mairie de Blois, et puis on va continuer à parler de démocratie vivante et permanente. Et alors, ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Gaël.
Merci, Christine.
Merci.